Et ce matin, ce n'est pas mon thème, hein. J'aimerais simplement ce matin qu'on puisse nous intéresser à quelque chose qui peut arriver à tout le monde, c'est l'épreuve. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et souvent, en tant que chrétien, même si on ne l'est pas, la question qu'on se pose, c'est comment on en sort? Or, ce matin, loin de moi la prétention de vous dire que je vais vous donner un manuel ou un mode d'emploi pour vous sortir de toutes les épreuves dans lesquelles vous allez peut-être tomber ou dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Non, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'aimerais qu'on puisse regarder un tout petit peu par rapport à la Bible. La Bible, c'est un manuel que Dieu nous a laissé, et par rapport à ce livre, qu'est-ce que Dieu peut nous donner comme clé, comme élément nécessaire pour pouvoir justement rester, vraiment tenir ferme dans cette épreuve. Tenir ferme dans l'épreuve. Et oui, ce n'est pas simple, vous savez. Hein. Il suffit de demander aux arbres, hein, quand un vent souffle fort, et ils sont éprouvés. Hein. Ah ben oui, c'est une épreuve pour les arbres. Mais comme ils ne parlent pas notre langage, on se dit, ah ben non, mais c'est que des arbres. Ah oui, mais oui, c'est une épreuve. Parce qu'ils ont une vie, vous êtes d'accord avec moi que les arbres sont des êtres vivants. Ah oui, si c'est des êtres vivants, c'est qu'il y a des épreuves aussi. Vous savez, quand il y a un vent violent, un ouragan ou je ne sais pas quoi que ce soit d'autre, qui vient s'abattre sur un arbre et l'arbre qui se casse en deux, eh bien c'est une véritable épreuve. Vous voyez? Et donc l'épreuve aussi, c'est quelque chose qu'on peut vivre de façon subjective aussi. Vous avez remarqué que nous pouvons vivre la même situation et ne pas réagir de la même manière. Et quelquefois, cela entraîne des incompréhensions. Parce qu'on se dit, tiens, on a vécu la même situation, mais pourquoi lui, elle ne réagit pas comme moi? Je ne comprends pas, j'ai l'impression que... Eh bien non, mais il y en a, on est différent. Parce qu'on est différent, on ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens, s'ils touchaient un peu le courant là, ils sursauteraient jusqu'au plafond. Il y a d'autres, ils feront juste un petit cri. Ouh là! Vous voyez, on réagit différemment. Parce qu'on est différent. Parce que nos réactions sont aussi liées, voilà, à ce que nous avons connu dans le passé, à comment nous avons été élevés, à comment nous avons grandi, et tout ça, voilà, rentre en ligne de compte par rapport à la manière dont nous allons faire face à toutes les situations. Et donc l'épreuve, voilà, c'est quelque chose qui a commencé, mais très vite, dans l'humanité. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un lieu de délices, hein. Ce serait étonnant que dans un lieu de délices, il y ait des preuves. Non, il n'y avait pas, Dieu n'avait pas prévu, il n'y avait pas d'épreuves. Adam et Ève vivaient dans un milieu sublime, un milieu merveilleux, un milieu où ils bénéficiaient, mais continuellement de la présence de Dieu qui était là avec eux. Ils étaient en relation parfaite avec leur Dieu, avec leur Créateur. Et puis nous savons tous qu'un jour, il y a ce qu'on appelle le péché qui est arrivé, la désobéissance. On peut dire entre guillemets la rébellion par rapport à la parole que Dieu avait donnée à l'homme. Il lui avait dit, ben écoute Adam, dans le jardin où je te place, il faut que tu saches que tu peux manger de tout ce que tu veux, mais il y a le fruit d'un arbre auquel tu ne devras jamais toucher. Parce que le jour où tu en toucheras, en mangeras, tu mourras certainement. Et puis nous savons ce qui est arrivé. Adam et Ève, ou du moins dans l'ordre, Ève et Adam ont mangé ce fruit. Et puis nous savons que l'homme et la femme ont été éjectés de ce lieu de délices, de ce lieu de rencontre exceptionnelle entre ce Dieu et sa créature, de ce lieu de communion entre Dieu, Adam et Ève, de ce lieu parfait que Dieu avait justement mis à disposition de l'homme et de la femme pour pouvoir bien évidemment évoluer. Et nous savons aussi que lorsque Dieu va venir le jour où l'irréparable, jusqu'à ce que Jésus vienne, a été commis, nous savons que Dieu est arrivé et puis l'homme et la femme qui jamais ne se cachaient de la présence de Dieu vont ce jour-là se cacher. Et c'est la première fois que le mot peur apparaît dans l'humanité. Parce que lorsque Dieu va demander à Adam, il va dire « Adam, où es-tu ? » Il va lui dire « Je suis caché, nous sommes cachés parce que nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur parce que nous sommes nus. » C'est la première fois que la peur rentre dans l'humanité. Et moi, je rigole souvent quand les gens me disent « la peur est naturelle ». Non, Dieu n'a pas créé l'être humain pour avoir peur. La peur, c'est quelque chose qui est entré dans l'humanité à cause du péché d'abord. Adam et Ève n'avaient jamais eu peur. Mais parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui avait cassé, ils savaient qu'il y a quelque chose qui allait plus, et ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont même cachés, eux qui ne se cachaient jamais de la présence de Dieu. Et donc vous savez qu'avec la peur, avec ce qu'il va suivre, après le péché, après la rébellion, la désobéissance, eh bien oui, l'homme va être éprouvé. Et déjà l'une des choses que Dieu n'avait pas prévues pour l'être humain, c'est de travailler par exemple. De la façon dont nous travaillons, Dieu va dire désormais c'est à la sueur de votre front, béni soient ceux et celles qui ne suent jamais. Ça veut dire que vous ne travaillez pas. Il y en a qui transpirent tous les week-ends, c'est ceux qui tapent sur le ballon. Au moins eux, à force de courir, ils sont obligés de transpirer, ils n'ont pas le choix. Mais il y en a qui travaillent en ce moment dans des salles climatisées, c'est difficile de transpirer. Hein? C'est difficile de suer quand on bosse dans une salle. On a plus tendance à vouloir faire un petit somme, hein? Parce qu'on est bien, on se sent bien. La peur a entraîné l'épreuve dans l'humanité. Et quelquefois, la considération que nous avons de l'épreuve, c'est souvent une connotation négative qu'on lui attribue. Vous avez remarqué, parce que l'être humain, quand Dieu l'a créé, le but n'était pas qu'il subisse ce genre de choses que nous pouvons subir aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas à l'aise avec la souffrance, avec les difficultés, avec toutes les choses qui nous embêtent. On n'est pas à l'aise avec ça, parce qu'à l'origine, quand Dieu nous a créé, ce n'était pas pour vivre ce genre de choses. Béni soit Dieu. Entre-temps, Dieu a envoyé son Fils. Pour rétablir les choses, nous sommes encore dans ce corps de souffrance, mais nous savons qu'un jour, nous serons délivrés et nous ressemblerons à notre roi qui viendra nous chercher dans les airs parce qu'il l'a dit et il le fera. Donc l'épreuve, nous n'aimons pas l'épreuve. Nous aimerions que notre vie soit une longue mène tranquille, que ça coule tout doux, à notre rythme, à notre convenance. C'est ce qu'on aime, les êtres humains. On n'aime pas trop être bousculé. On aime bien avoir nos habitudes. On n'aime pas que nos habitudes soient, je ne sais pas, bousculées. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Mais nous savons tous, autant que nous sommes en ce lieu ce matin, qu'il y a des moments dans la vie où il y a des épreuves, où il y a des difficultés, où il y a de la souffrance, où il peut y avoir des changements qui peuvent constituer des épreuves, bien évidemment. Mais l'épreuve... Il y a l'épreuve de Dieu aussi. Et l'épreuve de Dieu, ce n'est pas pour nous détruire. L'épreuve de Dieu, ce n'est pas pour nous amoindrir, ce n'est pas pour nous mépriser, non. L'épreuve, même de manière générale, déjà, elle est conçue pour un but bien précis. Elle est conçue pour mesurer la performance, pour évaluer la compréhension et déterminer si une personne a maîtrisé une compétence particulière. Vous avez par exemple, ça ne va pas tarder à arriver, l'épreuve du baccalauréat. Oui, c'est une épreuve. Est-ce que parce que nous n'aimons pas les épreuves, nous allons dire pour tous ceux et toutes celles qui ont des enfants en classe de terminale, nous allons leur dire, ben non, n'allez pas passer le bac parce que ça va vous détruire. Non. Nous savons que le bac, c'est le moyen, en tout cas en France, peut-être pas dans tous les pays dans le monde, mais en France, c'est le moyen... pour justement l'éducation nationale d'évaluer les compétences d'un élève qui a fini son cycle du secondaire, qui veut prétendre à poursuivre ses études à l'université, dans des écoles supérieures, ainsi de suite. Donc c'est une épreuve. Et il y a des épreuves que nous n'aimons pas. Et peut-être que certains sont en passe de les affronter. Eh bien oui, l'épreuve par exemple du permis de conduire. Eh oui! On a des jetons, là, on se dit, mais comment je vais faire? Mais c'est une épreuve. Parce qu'on veut évaluer tes compétences en tant que conducteur. On veut savoir si tu ne vas pas être un danger pour toi-même, un danger ambulant, pour toi-même ou pour les autres. C'est une épreuve. Il y a plein de choses auxquelles vous pensez peut-être, qui sont des épreuves. Mais nous savons tous, en tant qu'enfant de Dieu, que les épreuves n'épargnent pas les chrétiens. Si vous entendez un tel évangile quelque part, ben revenez ici. On vous dira que ce n'est pas vrai ce que vous avez entendu ailleurs. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui s'esquissent à donner un évangile comme celui-là, en disant, ben vous savez, ah ben non, mais quand on est chrétien, ça y est, on est fort, on gagne tout, on est champion, on fait... C'est vrai et c'est faux en même temps. En tant que chrétien, on peut connaître des épreuves. Et au risque de me tromper, il y en a peut-être parmi nous ce matin qui se disent, ben oui, tu es en plein dans le mille parce que je suis en train de passer par des moments difficiles actuellement. Je suis en train de connaître une épreuve qui est en train peut-être de me fatiguer, de me détruire, de me décourager. Et nous savons que l'épreuve, la première chose qu'elle va engendrer, en général, c'est la peur. Pourquoi ? Parce qu'on perd nos moyens. Comme je viens de le dire, on n'aime pas perdre nos moyens. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas résister, on a peur de ne pas tenir bon, on a peur de ne pas réussir, bien évidemment, à surmonter cette épreuve. Et donc, il y a la peur qui naît. Mais nous devons justement veiller à ce que cette peur ne devienne pas une arme fatale entre les mains du diable. Nous pouvons avoir peur, comme je vous ai dit, en attendant que les choses soient complètement rétablies, totalement rétablies, au retour de notre Sauveur, de notre Roi, de celui qui est Seigneur des Seigneurs, qui rétablira le règne de Dieu intégralement. Mais en attendant, nous allons éprouver des peurs, nous allons être éprouvés. Et comment nous faisons lorsque nous sommes éprouvés, ou lorsque nous sommes dans la peur? Est-ce que notre peur va devenir une arme entre les mains du diable? Parce que lorsqu'elle devient une arme entre les mains du diable, cette peur peut conduire à plusieurs autres choses. Ça peut conduire à l'anxiété, ça peut conduire, je ne sais pas, peut-être à l'inquiétude, ça peut conduire au doute, ça peut conduire à plusieurs phobies, ça peut même conduire à la dépression. Et je peux vous dire que le diable, lui, il se plaît à vous maintenir dans ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il vous éloigne de ce à quoi Dieu vous appelle. Le moyen que le diable a de nous éloigner, bien évidemment, de Dieu, mais c'est le même moyen qu'il utilise, qu'il a fait avec Adam et Ève, qu'il a utilisé avec Adam et Ève. C'est celui de nous faire croire que nous pouvons avoir mieux que ce que Dieu nous a promis. C'est celui de nous faire croire que sans Dieu, nous pouvons résister, nous pouvons vivre, nous pouvons être heureux. Et lorsque nous sommes face à ces choses, eh oui, mais comment est-ce que nous pouvons nous y prendre ? Lorsque nous savons que la Bible nous invite, peut-être pas page après page, mais dans de nombreuses pages de la Bible, le Seigneur lui-même nous invite expressément à ne pas nous inquiéter. Mais là, on dit, mais Jésus, mais on ne comprend rien. Comment tu peux demander à des êtres humains de ne pas s'inquiéter? Là, on se dit, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est bizarre, Jésus. Eh oui, mais moi, quand j'ai un problème, pour boucler ma fin de mois, mais je m'inquiète. Parce que c'est humain. Mais je ne crois pas que c'est de cela que Jésus parle. C'est un sentiment qui nous anime tous. Mais Jésus, ce dont il parle ici, c'est de dire, mais il ne faut pas que tu laisses installer ce sentiment comme étant quelque chose de normal. Que tu vives avec de façon pérenne, que tu installes ce sentiment en te disant, ah ben oui, mais moi je suis inquiet parce que... Non, parce que si tu restes dans l'inquiétude... À un moment, tu ne pourras même plus regarder à la personne de Jésus-Christ. Tu ne pourras plus. Donc l'épreuve est là pour nous perfectionner. En tout cas, quand c'est l'épreuve qui vient de Dieu, elle est là pour nous perfectionner. Elle est là pour nous permettre d'aller de l'avant. Tout comme dans notre monde, dans notre société, lorsqu'il y a des épreuves dans différents milieux, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous aider, bien évidemment, à nous évaluer et à nous permettre justement de savoir, d'être au clair aussi sur nos propres compétences. Ça, c'est très important. C'est très important. Ça nous évite de dormir sur nos lauriers. C'est très important, frères et sœurs. Vous savez, n'importe quelle entreprise digne de ce nom, vous savez ce qu'elle fait tous les ans? Un bilan. Mais il n'y a que les chrétiens qui n'aiment pas faire des bilans. Ils continuent comme ça, les années passent, année après année, ils avancent. Ils disent, ah oui, mais moi j'avance avec Dieu. Non, il faut faire des bilans, il faut faire des pauses. Il faut se poser en se disant, est-ce que la chose qui m'a embêté en 2017, est-ce qu'elle continue de m'embêter en 2018? Et si elle continue, est-ce que cela relève de ma responsabilité? Ou est-ce que c'est parce que c'est l'ennemi peut-être qui est à l'origine de ce qui m'arrive? Nous devons, bien évidemment, nous poser de temps en temps, réfléchir. La réflexion n'est pas diabolique, elle est biblique. Ce n'est pas le diable quand on réfléchit. Dieu donne la révélation, il donne la réflexion. La Bible nous invite à réfléchir. Même lorsque nous prenons des décisions, la Bible nous dit « réfléchissez ». Jésus même pour le suivre, il disait aux gens « il faut que vous réfléchissiez avant, ne me suivez pas juste pour me suivre, parce qu'il y a un prix à payer ». Jésus était clair. C'est pour ça que j'aime Jésus. C'est le seul qui dit la vérité. Le reste là, ils disent des mensonges. Ils se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de les citer ce matin. Jésus dit la vérité. Jésus lui-même, il va dire, vous allez souffrir à cause de mon nom et de ma parole. Vous allez être persécutés. Les gens vont vous en vouloir. Les religieux vont vous persécuter. Mais demandez aux premiers chrétiens de cette église. Eh bien, il y a des religieux qui venaient caillasser, qui venaient jeter les pierres alors qu'ils étaient réunis. Est-ce pour ça qu'on va renoncer à Jésus? Non! Moi, j'aime Pierre. J'aime les apôtres. Parce qu'ils sont battus, ils sont fouettés. Ils sont intimidés, on leur demande de ne plus jamais annoncer quoi que ce soit au nom de Jésus. Et là, Pierre et Jean, ils reviennent vers les leurs et ils leur disent, « Ah, nous sommes heureux. » Mais Pierre, pourquoi tu es heureux là? Dis-moi. « Ah, mais moi je suis content parce qu'on m'a frappé à cause de Jésus et de sa parole. » « Ah bon? Toi tu es heureux quand on te frappe, Pierre ?» Il dit, « Mais parce que Jésus me l'a dit. C'est pour ça que je suis heureux. Je ne suis pas allé chercher auprès du souverain sacrificateur, mais Jésus a dit, à cause de ma parole, je sais que j'ai annoncé la parole de Jésus. » Et parce que j'ai annoncé la parole de Jésus, j'ai été arrêté, j'ai été battu. Alors je me réjouis. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'à cause de mon nom et de ma parole, vous serez persécutés. L'épreuve, la façon dont on la regarde. Vous savez, quand le doute vient, quand la peur est là, elle nous pousse parfois à faire des choses que nous finirons par regretter plus tard. Personne n'est à l'abri de cela. Il n'y a pas de tel, je viens de naître de nouveau, non, je suis pasteur, non. Et ça, non, personne n'est à l'abri de cela. Et vous verrez ce matin, on va prendre l'exemple, entre autres, de quelqu'un, mais que même Jésus a reconnu, Jésus a témoigné de cette personne. Et on va tout de suite lire un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Le lendemain, il vit, donc il, c'est Jean-Baptiste. Il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Auprès de moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Et là, les chrétiens se disent, « Mais Jean-Baptiste nous dit un truc bizarre. » Normalement, dans la Bible, il nous a dit que c'est Élisabeth qui est tombée, pas Schulz, hein. Voilà. Élisabeth, la Bible, elle a juste copié. Hein, donc. C'est Élisabeth qui était la première enceinte. C'est ce que la Bible nous dit. Qu'après la visite de l'ange, quand Marie est tombée enceinte, par la puissance du Saint-Esprit, elle est allée vers sa cousine Élisabeth. Élisabeth était enceinte déjà de 6 mois. Donc normalement, Jean-Baptiste est plus vieux que Jésus. Mais comment Jean-Baptiste peut nous dire, mais non, il m'a précédé. Mais on ne comprend plus rien, Jean-Baptiste. Tu nous racontes n'importe quoi. Alors Jean s'est trompé. Ce n'est pas ça qu'il voulait marquer. Mais bien sûr que c'est cela qu'il voulait marquer. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut souligner la prééminence de Jésus. Il veut dire que Jésus, avant qu'il soit incarné sur la terre, il existait déjà aux cieux. Il est Dieu. Il dit, il est venu, c'est une incarnation. Il dit, lui, il existe avant moi. Il souligne la prééminence de ce Jésus, du moins de Christ, qui est devenu Jésus dans la chair. Il dit donc, car il existait avant moi, pour ma part, je ne le connaissais pas. Bon, là, c'est encore bizarre. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean rend témoignage de Jésus. Jésus a déjà été baptisé, et ces paroles que Jean prononce, Jean a déjà baptisé Jésus. Et quelque temps après, il voit Jésus passer, certainement avec certains de ses disciples. Et il dit aux autres, à tous ceux qui étaient là ce jour-là, il dit, regardez, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pourquoi Jean dit cela aux personnes qui sont avec lui. C'est parce qu'il avait reçu une délégation de religieux qui était venu lui demander si c'était lui le Messie. Et si ce n'était pas lui le Messie, pourquoi il baptisait? Donc il est en train de répondre à ceux qui étaient venus lui poser ces questions. Et justement, Jésus va passer, il va leur dire, mais regardez, ce n'est pas moi le Christ. Voici le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean, il n'y a aucune ambiguïté. Jean reconnaît clairement que Jésus qu'il a baptisé quelque temps auparavant est bien évident, est bel et bien le Messie, celui que Dieu a envoyé pour rétablir toutes choses. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Jean va dire, je ne le connaissais pas. Bien évidemment, parce que Jean va connaître Jésus par la révélation. Certainement qu'en tant que cousins, ils ont peut-être participé à des parties, je ne sais pas quel genre de sport il y avait à l'époque de Jean et Jésus. J'en sais rien du tout. Du moins, je ne suis pas allé regarder. Je ne sais pas. Donc, ils ont dû participer, peut-être à des rencontres familiales ensemble. Et Jean voyait Jésus sans savoir que Jésus était le Messie. Jean le voyait, il le côtoyait. Et il ne savait pas que Jésus était celui que Dieu avait envoyé. Mais comment Jean a-t-il su que Jésus est l'envoyé de Dieu? C'est parce que Dieu lui a dit, toi que j'envoie Jean, lorsque tu verras, quand tu vas baptiser, celui sur qui le Saint-Esprit va descendre pour s'arrêter, c'est celui-là l'envoyé de Dieu. Et Jean va dire qu'il va entendre même plus la voix qui va retentir du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jean reconnaît Jésus, il rend témoignage. Mais Jésus aussi va rendre témoignage de Jean. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu. Donc là, Jésus est aussi face à des religieux. Et Jésus va leur dire, mais qu'êtes-vous allé voir? Donc au désert où Jean baptisait au Jourdain, un homme habillé de tenues élégantes. Ceux qui portent de tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Jésus dit oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui à propos duquel il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean Baptiste. Ah, Jésus est merveilleux. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus rend aussi témoignage de Jean-Baptiste. Jésus dit, Jean-Baptiste que vous voyez, c'est celui dont Ésaïe parle dans son livre. Quand il dit, Dieu va envoyer son messager et son messager va préparer le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il va se passer. Jean-Baptiste va commencer à baptiser et une fois que Jésus va être révélé, le baptême de Jean-Baptiste va faire pchit. Parce que le but de ce baptême était justement de manifester Jésus à Israël, de révéler le Fils de Dieu, l'envoyé, le Messie. Jésus va dire, mais oui, c'est un prophète. Mais il dit, mais il est plus que cela, parce que c'est lui qui me prépare le chemin, celui qui m'a préparé le chemin, celui qui m'a devancé. Et Jean-Baptiste, c'est ce qu'il faisait, il criait dans le désert pour appeler le peuple à se repentir. Pour appeler le peuple à être conscient, 400 ans après un long silence de Dieu, depuis la fin du livre de Malachie jusqu'aux premières paroles de Jean-Baptiste dans le désert, Dieu n'avait plus jamais parlé à son peuple. Et le peuple s'était emmuré dans la religion, dans la tradition, dans des mœurs éloignant les uns les autres de la présence de Dieu. Et là Jean-Baptiste vient pour annoncer un nouveau message, il dit « ça y est, le moment est propice maintenant pour l'arrivée du Messie ». Mais personne n'y croyait. Il le leur dit, mais pourtant les gens, c'est vers Jean-Baptiste qu'ils vont aller pour lui demander, est-ce que c'est toi le Messie? Il va leur dire, ben non. Et là, Jésus reconnaît, il authentifie non seulement la parole qui a été donnée par Ésaïe, le prophète, comme quoi c'est bien Jean-Baptiste qui est le messager de Dieu. Cela a été également répété par Malachie, quand vous lisez la fin du livre de Malachie. C'est bien Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste témoigne de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, comme le Messie venu du ciel. Jésus reconnaît Jean-Baptiste comme étant le prophète, comme étant le messager de Dieu qu'il a envoyé devant lui pour préparer le chemin afin que lui vienne justement parler dans ce qui concerne le royaume et manifester ce pourquoi Dieu l'avait envoyé dans un premier temps. Parce que comme vous savez, Jésus va revenir. Hein. Parce que la prophétie d'Ésaïe, elle a deux niveaux. Il y a d'abord celui qui est venu, c'est l'agneau. Mais celui qui reviendra, c'est le lion. Alléluia. Eh oui, il est venu, c'est l'agneau qui a été sacrifié. Mais quand il revient, ce n'est plus comme un agneau. L'agneau ne juge pas, c'est le lion qui vient juger. Il vient dévorer tous ses ennemis. Il vient rétablir la loi. Donc l'agneau est venu, et là, quand le roi reviendra, c'est sous forme de lion, parce qu'il est lion et agneau en même temps. Donc les deux font le témoignage l'un de l'autre. Comme vous savez, vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va prendre position dans une histoire familiale, voilà, de quelqu'un qui avait voulu récupérer la femme de son frère. Et il va lui dire que ça ne se fait pas. Et à cause de cela, Jean-Baptiste va être emprisonné. Il va être emprisonné. Et Jean-Baptiste se retrouvant en prison, pour lui c'est une épreuve. Il est entre quatre murs, il n'est plus libre. Il n'est plus libre de faire peut-être ce que Dieu l'avait appelé à faire. Mais nous savons que le message de Jean-Baptiste avait de l'écho jusqu'à ce que Jésus soit manifesté. Le but c'était cela, il est venu préparer en fait la manifestation de Jésus. Dès que Jésus est manifesté, c'est fini. Parce que même un jour, il va dire à ses disciples, quand il leur a dit d'ailleurs, voici l'agneau de Dieu. Ah ben certains ont dit, ben écoute Jean-Baptiste, merci, maintenant on a fini le bail avec toi, on va avec Jésus. Si c'est lui l'agneau de Dieu, ça ne sert plus à rien de rester avec toi. Ils ont suivi Jésus. Et là Jean-Baptiste dans sa prison, dans ses angoisses, dans la peur, parce que n'importe qui, malgré la grandeur dont témoigne Jésus de Jean-Baptiste, Jésus est clair, il dit c'est le plus grand. Il enlève juste Adam, parce que comme vous savez, Adam n'est pas né d'une femme. C'est pour ça qu'il dit, à part Adam, tous ceux qui sont venus après, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais Jean-Baptiste n'est pas rentré dans le royaume. Il a juste annoncé le royaume. Il a annoncé le roi. Jean-Baptiste est resté à l'extérieur du royaume. Parce que dans les évangiles, nous ne sommes pas encore pleinement dans le royaume. Nous sommes dans la période intermédiaire. Nous sommes en pleine transition. Jean-Baptiste va annoncer ces choses, mais il ne rentre pas. C'est pour cette raison que Jésus dit, si Jean-Baptiste est le plus grand, mais le plus grand comment Jésus ? Nous, on est admiratif de Moïse. Il a ouvert la mer Rouge. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Il a tapé les eaux de Marat. L'eau est devenue douce. Mais nous, on a vu Moïse à l'œuvre. Et toi, tu nous dis, Jean-Baptiste, qui mangeait des sauterelles avec du miel sauvage, cet homme qui était bizarre, tu dis que c'est lui le plus grand. Nous sommes perdus. Comment peux-tu nous dire qu'il est plus grand alors qu'il n'a fait aucun miracle ? Et son baptême n'était même pas un vrai baptême. Entre guillemets, hein, ça avait tout son sens, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Comment ? Comment Jésus peut-il dire d'un homme comme Jean-Baptiste qu'il est le plus grand ? Et parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que la grandeur de Dieu n'a rien à voir. Nous sommes admiratifs de Moïse, mais je peux vous dire que Moïse, sans le concours de Dieu, il ne pouvait jamais ouvrir la mer Rouge. Moïse, il aurait beau frapper n'importe quel rocher dans le désert, il n'aurait jamais pu faire sortir de l'eau des rochers. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qui nous montre la grâce. Ce n'est pas parce qu'ils méritaient, ils étaient en plein péril, ils étaient éprouvés, ils avaient les ennemis derrière eux qui en voulaient à leur vie. Et là, Dieu va manifester sa grâce en étendant sa main puissante sur les eaux de la mer Rouge. Elles vont se fendre et elles vont former de murs et le peuple va passer à sec. Ça, c'est la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la main de Moïse, non. Moïse n'était qu'un instrument. Eh bien oui. Moïse n'était qu'un instrument. Donc Jésus va dire, c'est lui le plus grand. Parce que Dieu a voulu que Jean-Baptiste soit le plus grand, celui qui annoncerait qui ? Qui annoncerait la venue du Messie, qui préparerait le chemin du Seigneur. Oh non, mais Seigneur, t'es injuste là. Parce que moi j'aime bien Élie, j'aime le feu. Quand je demande le feu descend. Et toi tu me dis que le prophète Élie, il est plus petit que Jean-Baptiste, je ne comprends plus rien. J'aime David. Parce que face à mes Goliaths, je n'ai même pas besoin de mon lance-pierre. J'ai juste besoin de mon petit doigt. Je fais comme ça et mes ennemis tombent les uns après les autres. Non. Dieu nous dit, c'est lui le plus grand. Et il est bon de regarder maintenant ce texte de Matthieu 11. au premier verset. On va voir maintenant ce Jean-Baptiste qui est en prison. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes, dans leurs villes. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voilà. Jean-Baptiste a clairement identifié Jésus comme le Messie. Il a dit haut et fort devant tous ceux qui étaient à ce jour. Jourdain, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les Juifs, quand on disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils comprenaient tout de suite. Ils ont l'intelligence pour comprendre parce qu'ils savent ce que cela veut dire. Ils comprennent ce que cela veut dire parce que ce sont les éléments de la Pâque juive. Donc Jean-Baptiste est en train de leur parler des éléments de la Pâque juive. Il est en train de leur dire, l'agneau, quand vous avez appliqué le sang sur les linteaux en Égypte et cette fête que vous perpétuez de génération en génération, cet agneau que vous sacrifiez là, ils disent désormais, il est devenu l'agneau de Dieu, ce Jésus-là. C'est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il l'identifie. Et là, Jean, dans sa panique en prison, dans sa peur, dans ses angoisses, lui qui l'a identifié, c'est lui encore qui va envoyer deux de ses disciples vers Jésus pour demander à Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est étonnant. Hein? Est-ce que nous allons blâmer Jean ce matin? Je crois que je ne suis pas mieux placé que lui. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. La révélation n'est pas suffisante pour nous garder. Jean a eu la révélation. Vous savez, hein, la révélation ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Hein. Je vous dirai cela toujours. On peut prêcher, on peut prophétiser, on peut faire des miracles, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Non, parce que moi je connais un homme qui quelque temps auparavant avait reconnu Jésus comme étant le Christ, justement le Messie. Et quelque temps après, eh bien, il n'était pas d'accord que le Messie fasse l'œuvre du Messie. Vous savez comment il s'appelle cet homme? Eh bien oui. Jésus reconnaît, dit à Pierre, quand tu dis que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas un homme qui te l'a révélé. C'est forcément mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation de ce que je suis, de qui je suis. Mais quelque temps après, c'est le même Pierre qui va dire à Jésus, ah non, tu ne vas pas aller mourir hein, sur le bois de la croix, même si on nous lit ça dans les livres des prophètes, non, je refuse Jésus. N'en déplaise à Dieu, que Dieu le veuille ou non, moi je veux mon Jésus avec moi. Je veux qu'il soit avec moi tous les jours. C'est ça, Pierre. Oh, certainement que ça partait de bonnes intentions. Pierre n'était pas méchant parce qu'il aimait Jésus. Il aimait certainement Jésus à sa manière. Il ne voulait pas se séparer de Jésus. Mais il ne faut pas que notre amour empêche ou nos sentiments empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Nos sentiments ont leur place. Nos opinions ont leur place. Mais nos sentiments et nos opinions ne doivent pas empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est ce que Jésus voulait faire avec Pierre. Il dit non, moi je t'aime tellement, je n'ai pas envie que tu ailles jusqu'à la croix pour mourir. Ce Jean qui a si bien reconnu Jésus, c'est le même Jean qui, parce qu'il est dans l'épreuve, parce qu'il est dans la tourmente de la prison, parce que l'angoisse le gagne, parce que ce n'est pas un milieu où on passe son temps à rigoler, ce n'est pas un milieu où on passe son temps à dire « je prends un café, je suis content », ce n'est pas un milieu où on se dit, ben tiens, je suis tellement bien ici, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Non, c'est un milieu qu'on appelle le milieu carcéral. On est privé de sa liberté physique. On est privé de ses mouvements. On ne peut plus rien faire. Hein. Et Jean savait ce qu'il attendait. Est-ce que dans la parole de Jean, il y a seulement la peur? Il n'y a pas que la peur. Jean aussi veut s'assurer que Jésus va faire les œuvres de Dieu. Il y a un paradoxe dans ce que Jean demande à Jésus. Il n'est pas seulement en train de manifester sa peur, ça en fait partie. Mais il est en même temps en train de s'assurer, en train de dire à Jésus, « Je veux m'assurer que tu es en train de faire les œuvres de Dieu. » La peur, c'est quelque chose qui peut nous gagner. Et quand on est dans l'épreuve, frères et sœurs, nous devons veiller, chers amis, à ce que nous ne laissions pas, bien évidemment, nos sentiments nous dominer, nos émotions nous dominer. Nous devons toujours faire tout notre possible pour garder notre cœur, pour garder ce qui est essentiel en nous, qui nous permet encore de tenir la route, d'avoir la tête sur les épaules, Parce que si nous perdons justement le contrôle, notre self-control, eh bien en ce moment-là, nous sommes capables de faire tout et n'importe quoi. Nous sommes capables de dire le contraire de ce que nous avons dit auparavant, comme ce fut le cas pour Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse que Jésus va donner aux disciples de Jean qui sont venus s'enquérir, bien évidemment, de qui était véritablement Jésus. Jésus leur répondit. C'est étonnant, hein, parce que la question que Jésus, que Jean pose à Jésus, ben c'est une question de oui ou non. Je suis ou bien je suis le Messie ou je ne suis pas le Messie. Mais Jésus dit non. On reconnaît l'arbre à son... On reconnaît le Messie à ses œuvres. Je vais te dire maintenant, Jean, à travers tes émissaires, je vais te dire que tout ce que Ésaïe a dit dans son livre, c'est ce qui est en train de se passer. Donc je suis bel et bien le Messie. Je n'ai pas besoin de te le dire comme ça. Mais tu n'as qu'à voir mes œuvres et tu sauras que c'est moi le Messie. C'est pour ça que Jésus dit, Jésus va leur répondre, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, n'est-ce pas le programme qui est dans le livre d'Ésaïe, en ce qui concerne le Messie, en ce qui concerne l'envoyé de Dieu? Il dit, alors toutes ces choses sont accomplies. Donc allez dire à Jean que, bien évidemment, à travers ces choses, c'est bel et bien moi, Jésus-Christ, qui suis le Messie. Ça peut arriver à tout le monde, cela. Et vous faites facilement un parallèle. Hein. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un homme qui vous rappelle quelque chose? C'est peut-être lui, hein, je ne veux pas trop m'avancer ce matin, un homme appelé Élie, un grand prophète. Il a demandé au feu de descendre, le feu est descendu, Dieu a exaucé. Élie, le prophète, quand il prie, Dieu ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Et quand il revient au bout de 3 ans et demi, vous savez comment il revenait, Élie? C'est comme ça. Oh là là, je m'appelle Élie. Ah non, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'Élie revenait. Et quand il prie, il est là avec son serviteur. Il dit au serviteur, va guetter. Ah, Seigneur, il n'y a rien. Retourne, il n'y a rien. Au bout de 7 fois, il dit, ben, je vois un petit nuage comme la pomme d'un bébé de 2 jours. Il dit, ah, ça annonce la pluie. Élie va ramener le peuple d'Israël à Dieu. Il va dire, arrêtez de marcher. Arrêtez d'être dans la duplicité. Si c'est Dieu qui est, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après Dieu. Mais si c'est Baal, les dieux, allez-y aussi après Baal. Ce grand prophète, il va faire des miracles, mais extraordinaires. Mais ce grand prophète, lorsqu'il va entendre une seule parole d'une femme appelée Jézabel, la femme du roi Akab, qui va menacer sa vie, il va prendre ses clics et ses claques, qui va se barrer dans le désert, comme un gamin. Il va se mettre à pleurer en disant à Dieu, « Non, moi, j'en veux plus, donne-moi la mort. » Mais Dieu ne tue pas les gens. Est-ce que je suis en train d'amoindrir l'œuvre d'Élie? Est-ce que je suis en train de mépriser Élie? Non, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à tout le monde. Élie était un grand homme de Dieu et il le restera. D'ailleurs, dans une religion, Élie, c'est le plus grand prophète. Il le restera. Mais pourtant, Élie, à cause d'une parole, Jézabel, alors que Élie venait de décapiter des centaines de prophètes, de faux prophètes, il venait de les décapiter, des centaines de faux prophètes. C'est Élie-là qui est utilisé puissamment par Dieu. C'est Élie à travers qui Dieu ferme et ouvre le ciel par la prière. C'est Élie à travers qui les choses de Dieu sont manifestées. Le peuple de Dieu revient à Dieu. C'est même Élie, à cause d'une parole menaçante, Élie s'enfuit dans le désert. Et il est dans un état de dépression. Est-ce que le Dieu qui lui avait permis d'ouvrir le ciel n'est plus? Si, il est toujours là. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Gloire et louange à son nom. Mais justement, comment faire? Comment faire pour justement, pour faire, comment faire face à l'épreuve? Il y a une chose que Jésus nous a dite. Vous vous rappelez lorsque Jésus a envoyé 70 de ses disciples pour annoncer l'évangile, guérir les malades, faire tout ce qu'ils doivent faire, qui accompagne bien évidemment le royaume des cieux. À leur retour, ils vont faire bien évidemment un rapport à Jésus. Et dans le rapport qu'ils vont faire à Jésus, ils vont lui dire, ben écoute, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Regardez un peu le lien qu'il y a. Ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Voyez, il y a la puissance qui est manifestée. Jésus va leur dire, mais oui, c'est vrai. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Mais Jésus lui dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Il dit, parce que quand il y a l'épreuve, si vous vous appuyez sur votre expérience, sur ce que vous faites, vous n'allez pas tenir. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, parce que vous êtes des enfants de... Oh, alléluia! Vous êtes des enfants de Dieu. C'est ce qui fait que même dans l'épreuve, vous ne vous appuyez pas sur votre expérience, sur ce que vous avez, sur ce que vous pouvez faire. Mais désormais, vous vous appuyez sur la présence de Dieu. Vous vous appuyez sur les promesses de Dieu. Vous vous appuyez sur la parole de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit, attention! Parce que c'est un trompe-l'œil, l'histoire de la gloire, l'histoire de la puissance, l'histoire des œuvres qu'on peut voir. C'est un trompe-l'œil. Satan n'a pas peur des miracles. Il y a longtemps qu'il aurait disparu à cause des miracles. Je vois que Annie n'est pas d'accord avec mon message. Satan. Il y a longtemps que Satan aurait disparu. Satan est là. Nous prions, nous jeûnons, nous chassons. Mais les démons ne meurent pas, frères et sœurs. Satan ne meurt pas. Le temps où ils seront encastrés dans le feu de la géhenne, le feu éternel, il n'est pas arrivé. Ce qui nous donne la force, c'est de savoir que nous sommes fils et filles de Dieu. Ça, c'est la plus grande chose. C'est la chose la plus importante. Au-delà de tout ce que nous pouvons connaître ou faire, si nous sommes enracinés dans ça, en sachant que nous sommes enfants de Dieu, le reste n'a que peu d'importance. Le reste n'a que peu d'importance. Il nous a donné, nous pouvons bien sûr jouir de cette autorité que Jésus nous a donnée. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en nous rappelant ce que nous sommes, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu pour tenir bon dans l'épreuve. Nous appuyer sur les promesses de Dieu. C'est très important. Eh oui, Jésus nous dit quoi dans Jean 10? Il nous dit, mais il faut que vous sachiez, le diable vient pour égorger, détruire, et puis pour voler, égorger, et puis détruire. Il dit, mais moi je suis le bon berger. Ah, et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il dit, quand il leur donne la vie, il leur donne en abondance. C'est ça qui doit nous rassurer. C'est ça, c'est pas... Le miracle passe, frères et sœurs. Le miracle passe. Le miracle, il y a des gens qui ont été guéris. Dans la Bible, ils n'ont pas suivi Jésus. Ils finiront en enfer. Mais ce qui fait que toi, tu sois dans la présence de ton Dieu éternellement, ce n'est pas le miracle que tu as fait sur la terre, c'est ta filiation. Amen. Un héritier, il hérite par rapport à quoi? Parce qu'il a un lien de parenté avec le légataire. Ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose. C'est parce que tu es héritier. C'est cela, frères et sœurs. Nous devons tenir. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. David est un homme qui était pourchassé par son ennemi Saül dans le désert. Il était pourchassé par quelqu'un qui avait, bien sûr, le bénéfice, qui avait l'autorité sur l'armée de tout un royaume et qui en voulait à la vie de David. Et c'est dans ces circonstances que Dieu va se révéler à David dans le psaume 23. La plupart des commentateurs de la Bible disent que c'est un psaume que David a écrit dans la galère. Dieu va lui donner la révélation. Dieu va parler à David avec le langage de David. Il dit, bon, David, quel est ton métier? Berger. Alors, je vais te parler dans le langage de berger. C'est pour ça qu'il se révèle à lui. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il le comprend mieux parce qu'il parle son langage. Il dit, il faut que tu saches. Tout comme tu prenais soin des bêtes de ton père, moi, je prends soin de toi. Donc, même dans l'épreuve dans laquelle tu es là, je ne t'ai pas abandonné. Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Le but n'est pas de t'établir, c'est de traverser. Tu es de passage. Passe la vallée de l'ombre de la mort. Ne reste pas dans ton épreuve. Tu passes. Tu n'es pas là pour rester dans l'épreuve. C'est ce que Dieu dit à David. Tu n'es pas là pour demeurer. Tu es de passage. On ne s'établit pas dans l'épreuve. On est de passage. Parce que celui dont la houlette ou le bâton nous rassure, la houlette et le bâton du berger, c'est la présence du berger. La présence de Dieu, elle est avec nous, en nous, pour nous donner la force de tenir bon dans l'épreuve, ne pas abandonner, ne pas lâcher. Il est bon de le savoir, frères et sœurs. Nous devons nous appuyer sur l'amour de Dieu. C'est ce que Jean va nous dire, l'apôtre de l'amour. Voici ce que Jean dit. Il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Non, nous ne devons pas avoir peur. Non, parce que l'amour, c'est notre meilleur gardien. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que nous devons veiller sur notre cœur. Pour pas que l'épreuve nous amène à des choses comme le ressentiment, à des choses comme le découragement, comme maudire les autres, comme en vouloir aux autres, comme envier les situations des autres. Non, parce que l'amour est en nous, il a été répandu en nous par le Saint-Esprit, Romains 5:5. Et à cause de cela, nous vivons selon cet amour. Nous vivons par cet amour. Donc l'amour parfait banni, la peur ou dans d'autres versions, dans d'autres traductions, l'amour parfait banni, la crainte
vers les âmes perdues.
Nous savons
si on
que
peut résumer le message que
c'est
Jésus a laissé à ses disciples,
quand quelqu'un est dans une épreuve,
après la résurrection,
évitons de nous avancer trop vite.
Luc nous parle disant,
oh,
bien évidemment
là, péché.
De ces jours,
oh,
de ces jours que Jésus a
passé,
ou du moins des apparitions qu'il a faites à ses disciples.
Les choses sont plus compliquées que cela.
Le temps que Jésus a passé avec ses disciples après sa résurrection,
ne simplifions pas les choses en disant
non,
ça peut arriver. Mais ne disons pas toujours
Jésus
que c'est à cause.
Et Jésus va leur dire la manière
quelquefois dans des épreuves,
de manifester
on est attaqué
le royaume.
Par Satan.
Vous vous rappelez lorsque Jésus va envoyer un jour
ses
disciples annoncer l'évangile.
Est-ce que vous avez déjà
dans les
Satan,
villes et les villages où lui-même devait aller
demander.
Il va leur dire,
Eric,
mais
je
vois allez-y manifester le royaume
ça ne ferait pas
en
mal,
faisant quoi en guérissant les malades, en annonçant l'évangile, en guérissant les malades, en délivrant. Jésus va leur parler du royaume.
Avec ce texte d'Hébreu.
Et nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de revenir à cela,
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses.
Dieu est allé jusqu'à dire, Dieu est bien celui
qui est
heureux que
nous
soyons ainsi réunis ce matin pour le louer, l'adorer.
Sans commettre de péché.
Mais la Bible nous dit que le fait d'être ainsi réunis, malgré notre meilleure louange que nous pouvons lui donner, la meilleure louange possible, l'adoration possible à travers le chant, à travers les cantiques, la Bible nous dit que ce qui réjouit, ce qui fait frémir le cœur de Dieu, ce qui fait bondir Dieu, c'est quand une âme se tourne vers lui.
Christ, ce n'est pas pour lui-même qu'il a fait ce qu'il a fait.
Rappelons-nous que le jour où nous avons donné notre vie à Jésus,
qui sont encore à l'extérieur,
c'est alors que nous avons réjoui le cœur du Père. C'est alors qu'il y a eu une fête dans les cieux. C'est alors que les anges se sont mis en émoi. C'est alors que le trône du Père a été rempli de cette gloire.
Si ce n'est des sacrifices de louange,
non pas parce qu'il n'y en a pas,
de reconnaissance,
mais c'est comme si
le trône
débordait encore plus de gloire.
Voilà, c'est le genre de sacrifice auquel nous devons nous adonner. Parce que Christ, maintenant dans la présence de Dieu, est notre meilleur intercesseur.
C'est pour cette
quand
raison
Dieu
que
te
Jésus
regarde,
dira, vous savez,
alors que sa colère s'élève,
quand on a un troupeau de 100 brebis, alors qu'une seule est perdue,
tu ne peux plus te mettre
en colère.
On met
les 99 autres en sécurité.
Il n'y a maintenant plus de.
Et on se met à la recherche de la brebis perdue.
Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni.